Ivanhoé, chapitre 14. Le prince Jean tint son grand banquet dans le château d'Asby. Ce n'était pas le même édifice que celui dont les superbes ruines intéressent encore le voyageur, et qui fut construit à une époque postérieure par Lord Hastings, grand chambellan d'Angleterre, une des premières victimes de la tyrannie de Richard III, et plus connu encore comme un des principaux héros de Shakespeare que comme personnage historique. Le château de la ville d'Asby appartenait alors à Roger de Quincy, comte de Winchester, qui, lors de notre histoire, se trouvait en Palestine. Pendant son absence, le prince Jean occupa son château et disposa de ses domaines sans scrupule. Et, voulant en ce moment éblouir le peuple par son hospitalité et sa magnificence, il avait ordonné de grands préparatifs afin de rendre ce festin aussi splendide que possible. Les fournisseurs du prince, qui en cette occasion comme en d'autres s'arrogeaient l'autorité royale, avaient dépouillé le pays de tout ce qu'on avait pu trouver de convenable pour la table de leur maître. Les convives aussi furent invités en grand nombre, et dans la nécessité où le prince Jean se trouvait alors de quêter la popularité, il avait étendu ses invitations à toutes les familles distinguées des Saxons et des Danois, aussi bien qu'aux seigneurs normands et à la petite noblesse des environs. Quelque méprisés et déchus qu'ils fussent ordinairement, les Anglo-Saxons, par leur force numérique, devenaient nécessairement formidables dans les commotions civiles qui menaçaient l'État, et il était évidemment d'une saine politique de s'assurer la popularité de leur chef. Il entrait donc dans les intentions du prince, intentions qu'il maintint pendant quelque temps, de traiter ses hôtes inaccoutumés avec une courtoisie à laquelle il n'était pas habitué. Mais, bien que personne n'apportât moins de scrupules à faire plier devant les intérêts, ses habitudes et ses sentiments ordinaires, la fatalité du prince voulait que sa légèreté et sa pétulance éclatassent sans cesse, détruisant ainsi tout ce qu'il avait gagné par sa dissimulation. Il donna un exemple mémorable de cette humeur volage lorsqu'il fut envoyé en Irlande par son père, Henri II, dans l'intention de captiver l'opinion des habitants de ce pays, nouveau et important fleuron de la couronne anglaise. En cette occasion-là, les chefs irlandais se disputaient l'honneur d'offrir les premiers au jeune prince leur hommage loyal et le baiser de paix. Mais, au lieu de recevoir leurs félicitations avec courtoisie, Jean et ses insolents serviteurs ne purent résister à la tentation de tirer les longues barbes des chefs irlandais, conduite qui, ainsi qu'on devait s'y attendre, courroussa profondément les dignitaires insultés et donna lieu à des suites fatales pour la domination anglaise en Irlande. Il est nécessaire de ne pas perdre de vue ces inconséquences du caractère de Jean pour que le lecteur comprenne sa conduite durant la présente soirée. D'après la résolution qu'il avait formée pendant ces moments de réflexion, le prince Jean reçut Cédric et Athelstan avec une courtoisie parfaite et exprima sans ressentiment ses regrets quand le premier allégua l'indisposition de Lady Rowena comme prétexte de ce qu'elle ne se rendait pas à sa gracieuse invitation. Cédric et Athelstan portaient l'un et l'autre l'ancien costume saxon, lequel, sans être laid, et bien que pour cette occasion fait d'étoffes coûteuses, différait tellement de coupe et de forme de celui des autres convives, que le prince Jean se fit un titre de modération aux yeux de Waldemar Fitzurse de ne pas s'être mis à rire à la vue d'un costume que la mode du jour rendait ridicule. Cependant, en les jugeant sainement, la tunique courte et collante et le long manteau des Saxons étaient un habillement plus gracieux et plus commode que celui des Normands, dont le justaucorps était un long pourpoint si large qu'il ressemblait à la blouse d'un charretier. Ce pourpoint était recouvert d'un manteau de petite dimension qui ne garantissait le porteur ni du froid ni de la pluie, et dont l'unique but paraissait être de mettre au jour autant de bijoux et de broderies que l'ingénieux tailleur pouvait en faire tenir sur sa surface. L'empereur Charlemagne, sous le règne duquel ils furent introduits pour la première fois, nous semble avoir parfaitement apprécié les incommodités provenant de ce genre de vêtements. « Au nom du ciel !» disait-il. « À quoi servent ces manteaux raccourcis ? Au lit, ils ne nous couvrent pas. À cheval, ils ne nous protègent ni contre le vent ni contre la pluie. Et assis, ils ne garantissent pas nos jambes de l'humidité ni de la gelée. » Néanmoins, en dépit de cette censure royale, les manteaux courts restèrent à la mode jusqu'au temps dont nous parlons, surtout parmi les princes de la maison d'Anjou. Ils étaient donc d'un usage universel parmi les courtisans du prince Jean, et le manteau long, qui était le vêtement supérieur des Saxons, fut d'autant plus tourné en ridicule. Les convives étaient placés à une table qui pliait sous le poids des mets. De nombreux cuisiniers, qui suivaient le prince dans ses voyages et qui avaient mis en œuvre toute leur science pour multiplier les formes sous lesquelles les provisions ordinaires étaient servies, avaient réussi, presque aussi bien que nos professeurs actuels dans l'art culinaire, à les rendre complètement méconnaissables à la vue. Outre les produits indiqués, il y avait là une foule de friandises venues de l'étranger et une grande quantité de pâtisseries de luxe, ainsi que des pains et des gâteaux savoureux employés seulement sur les tables de la haute noblesse. Des vins exquis, tant indigènes qu'étrangers, mettaient le comble au luxe du festin. Mais, bien qu'adonnés au luxe, les seigneurs, en général, n'étaient pas d'une race intempérante. En se livrant au plaisir de la table, ils recherchaient la délicatesse et évitaient les excès, et avaient l'habitude de reprocher l'ivrognerie et la gloutonnerie aux Saxons vaincus, comme des vices inhérents à leur basse condition. Le prince Jean, à la vérité, et ceux qui cherchaient à lui plaire en imitant ses défauts, aimaient à se livrer au plaisir de la table. On sait que sa mort eut pour cause une indigestion causée par des pêches et de l'al nouvelle. Sa conduite, toutefois, offrait une exception à celle de ses compatriotes. Avec une gravité moqueuse, seulement interrompue par des signes particuliers qu'ils se faisaient entre eux, les chevaliers normands observèrent le maintien rude d'Athelstan et de Cédric pendant le banquet, à la forme duquel ils n'étaient pas habitués. Ce fut tandis qu'ils étaient l'objet d'une attention railleuse que les Saxons ignorants transgressèrent, à leur insu, plusieurs des règles arbitraires qu'on avait établies pour l'observation des convenances. Or, on sait bien qu'un homme est reconnu comme plus excusable en violant les lois morales qu'en paraissant ignorer la moindre minutie des lois de l'étiquette. Aussi, Cédric, qui essuya ses mains avec une serviette, au lieu de faire évaporer l'humidité en les secouant avec grâce en l'air, encourut-il plus de ridicule que son compagnon Athelstan, avalant à lui seul un pâté entier composé de friandises étrangères les plus exquises, et qu'on nommait en ce temps un carumpi. Quand on s'aperçut, par un examen plus approfondi, que le tan de Königsbourg, ou le Franklin, comme disaient les Normands, n'avait nulle idée de la chose qu'il venait de dévorer, et qu'il avait pris le contenu du carumpi pour des alouettes et des pigeons, tandis que c'était des becs figues et des rossignols, son ignorance l'exposa à un ridicule qu'il eût été plus juste d'attribuer à sa gloutonnerie. Le long festin finit par avoir un terme, et tandis que la coupe circulait librement, les hommes causaient entre eux des prouesses du vainqueur inconnu au jeu de l'arc dans le tournoi. Du chevalier noir, que son désintéressement avait engagé à décliner les distinctions qui lui étaient dues, et du vaillant Ivanhoé, qui avait payé si cher les honneurs de la journée. Tous ces sujets furent discutés avec une franchise militaire, et la plaisanterie et les rires firent le tour de la salle. Le front seul du prince Jean resta soucieux pendant ces conversations. Quelques chagrins accablants paraissaient agiter son esprit, et ce n'était que lorsque ses partisans le rappelaient à lui-même de temps en temps qu'il paraissait s'intéresser à ce qui se passait autour de lui. Alors, il se relevait soudainement, vidait une coupe de vin pour ranimer sa gaieté, et se mêlait aux propos par quelque interrogation insolite et faite au hasard. « Buvons cette rasade, » dit-il, « à la santé de Wilfrid Ivanhoé, le héros de cette passe d'armes, en regrettant que sa blessure le tienne absent de notre table. Que chacun remplisse sa coupe pour ce toast, et surtout Cédric de Rottenwood, le digne père d'un fils qui promet tant. » « Non, monsieur, » répliqua Cédric en se levant et en déposant sur la table sa coupe intacte. « Je n'accorde pas le nom de fils au jeune homme désobéissant qui méprise à la fois mes ordres et abandonne les us et coutumes de ses pères. »«
C'est impossible !» s'écria le prince Jean en feignant l'étonnement. « Qu'un chevalier si vaillant soit un fils indigne ou désobéissant !»
« Cependant, monseigneur, répondit Cédric, il en est ainsi de Wilfrid. Il a quitté ma modeste maison pour se mêler à la joyeuse noblesse de la couronne de votre frère, où il a appris à faire ses tours d'équitation que vous estimez tant. Il l'a quitté contre mon désir et mes ordres, et du temps d'Alfred, on eût taxé cela de désobéissance et de crimes sévèrement punissables.
« Hélas !
Répondit le prince Jean avec un profond soupir de sympathie affectée. « Puisque votre fils a été un partisan de mon malheureux frère, il ne faut pas s'étonner où et de qui il a appris cette désobéissance filiale. » Ainsi parlait le prince Jean, daignant oublier que, de tous les fils de Henri II, bien qu'ils fussent tous passibles de ce reproche, il avait été lui-même le plus incriminé pour sa rébellion et son ingratitude envers son père. « Il me semble, dit-il après un moment d'hésitation, que mon frère se proposait de confier à son favori le riche manoir d'Ivanhoé. » « Il le lui a inféodé, en effet, répondit Cédric, et ce n'est pas mon moindre sujet de querelle avec mon fils. » Qui s'est abaissé à ne tenir que comme vassal féodal les domaines dont ses pères jouissaient en toute liberté et indépendance.
« Alors, nous aurons votre pleine sanction, brave Cédric, dit le prince Jean,
de conférer ce fief à une personne dont la dignité ne sera pas amoindrie en tenant des terres de la couronne d'Angleterre.
Sir Reginald Front de Bœuf, dit-il en se tournant vers le baron.
« Je compte que vous garderez si bien la bonne baronnie d'Ivanhoé que ce Wilfrid n'encourra pas le déplaisir de son père en rentrant de nouveau dans la possession de ce domaine. »
« Par Saint-Antoine !» répondit le géant au front bronzé.
« Je consens à ce que votre Altesse me prenne pour un Saxon. » Si ce Cédric ou Wilfrid ou le meilleur sang de l'Angleterre m'arrache jamais la propriété dont votre Altesse vient de m'honorer.
Quiconque t'appellera Saxon, sire baron, reprit Cédric,
froissé par l'expression par laquelle les Normands manifestaient souvent leur mépris habituel pour les Anglais, te fera un honneur aussi grand que peu mérité. Front de Bœuf allait répondre. Mais la pétulance et les tourderies du prince Jean le devancèrent.
« Assurément, mes seigneurs, dit-il, le noble Cédric dit vrai, et sa race peut prétendre à la préséance sur la nôtre, autant par la longueur de sa lignée que par celle de son manteau.
Ils vont devant nous, à la vérité, dans les champs de bataille, comme les daims devant les chiens, dit Malvoisin.
Et ils ont bien le droit d'aller devant nous, dit le prieur Aymer. « N'oubliez pas la décence et la distinction supérieure de leurs manières. »
Leur sobriété et leur tempérance remarquables, dit de Bracy, oubliant le projet qui lui promettait une fiancée saxonne.
« Non plus que le courage et la conduite, ajouta Brillant de Bois-Guilbert, par lesquels ils se sont illustrés à Hastings et ailleurs. Tandis que les courtisans, tour à tour, avec un visage calme et souriant, suivaient l'exemple de leur prince en lançant un trait de ridicule contre Cédric, la figure du Saxon s'enflammait de courroux, et il dardait des regards fiers de l'un à l'autre, comme si la prompte succession de tant d'injures l'eût empêché de répondre à l'une après l'autre. Ou comme un taureau aux abois, qui, entouré de ses tourmenteurs, ne sait lequel choisir pour l'objet immédiat de sa vengeance. À la fin, il parla d'une voix à moitié étouffée par la colère, et, s'adressant au prince Jean comme l'audacieux instigateur de l'offense qu'il venait de recevoir. « Quel qu'ait été, dit-il, les folies et les vices de notre race, un Saxon eût été regardé comme un Nidwing, terme le plus emphatique de la bassesse la plus abjecte, si, dans sa propre salle, et pendant que la coupe de l'hospitalité circule, il eût lui-même traité ou permis qu'on traitât un convive inoffensif comme votre Altesse a vu aujourd'hui qu'on me traitait devant elle. Et quel qu'ait été le malheur de nos pères au champ d'Hastings, cela du moins devrait se taire. » Ici, il regarda Front de Bœuf et le Templier, qui, il y a quelques heures, ont vidé à plusieurs reprises les arçons sous la lance d'un Saxon. « Par ma foi, voilà une amère plaisanterie, » dit le prince Jean. « Comment goûtez-vous cela, messire? Nos sujets saxons gagnent en fermeté et en courage. Leur esprit s'aiguise et leur maintien s'enhardit dans ces temps agités. Qu'en dites-vous, messeigneurs? Par la lumière du ciel, il me semble plus sage de prendre une galère et de retourner au plus vite en Normandie. » « Par crainte des Saxons ?» dit De Bracy en riant. « Il ne faudrait pas d'autres armes que nos épieux de chasse pour mettre ces sangliers aux abois. »« Trêve à vos railleries !» dit Fitzurse. « Il serait bien, » ajouta-t-il en s'adressant au prince, « que votre Altesse assurât le digne Cédric qu'on n'a pas l'intention de l'insulter par des plaisanteries qui doivent mal sonner à l'oreille d'un étranger. » « L'insulter ! » reprit le prince Jean en reprenant toute sa courtoisie. « J'espère bien qu'on ne pensera pas que je pourrais me permettre ou tolérer chez d'autres une insulte contre un convive. Regardez, je remplis ma coupe en l'honneur de Cédric lui-même, puisqu'il refuse de boire à la santé de son fils. » La coupe fit le tour de la table au milieu des applaudissements simulés des courtisans. Mais ils manquèrent cependant de faire l'impression désirée sur l'esprit du Saxon. Ils n'avaient pas naturellement l'intelligence prompte, mais cela dépréciait trop son esprit qui s'attendait que ce compliment flatteur pût effacer le sentiment de l'insulte précédente. Il garda toutefois le silence quand un autre toast royal fut porté à Sir Athelstan de Coningsburg. Le chevalier salua et se montra sensible à cet honneur en vidant un large gobelet pour y répondre. « Et maintenant, messeigneurs, » dit le prince Jean, que le vin commençait à échauffer, « ayant fait justice à nos convives saxons, nous les prierons de nous rendre courtoisie pour courtoisie. « Digne Tan, » continua-t-il en s'adressant à Cédric, « pouvons-nous vous prier de nous citer quelques Normands dont le nom répugne le moins à votre bouche, et de laver avec un verre de vin toute l'amertume que ce nom pourra laisser derrière lui ?» Fitzurse se leva pendant que le prince Jean parlait encore, et se glissant derrière le siège du Saxon, lui dit à l'oreille de ne pas perdre l'occasion de mettre fin à l'inimitié qui régnait entre les deux races en nommant le prince Jean. Le Saxon ne répondit pas à cette insinuation politique, mais, se levant et remplissant sa coupe jusqu'au bord, il apostropha le prince Jean en ces termes. « Votre Altesse exige de moi que je nomme un Normand qui mérite d'être cité à votre banquet. C'est peut-être une tâche difficile, puisque c'est demander à l'esclave de chanter les louanges du maître. au vaincu qui souffre encore tous les maux de la conquête, d'entonner les louanges du vainqueur. Cependant, je vais nommer un Normand, le premier dans les armes et le premier par son rang, le meilleur comme le plus noble de sa race, et celui qui refusera de confirmer sa bonne renommée, je le déclare faux et sans honneur, et je soutiendrai mon dire avec ma vie. Je vide donc ce gobelet à la santé de Richard Cœur de Lion. » Le prince Jean, qui s'attendait à entendre son propre nom à la fin du discours du Saxon, tressaillit lorsque celui de son frère spolié fut inopinément prononcé. Il porta machinalement la coupe à ses lèvres, puis la posa sur la table pour étudier le maintien des convives à cette proposition inattendue, et à laquelle plusieurs d'entre eux sentaient qu'il était aussi dangereux de résister que d'acquiescer. Quelques courtisans, vieux et expérimentés, suivirent à peu près l'exemple du maître, élevant d'abord la coupe à la lèvre, puis la replaçant devant eux. Il y en eut plusieurs qui, mus par un sentiment plus généreux, s'écrièrent « Vive le roi Richard, et qu'il nous soit bientôt rendu !» Enfin, un petit nombre, parmi lesquels Front de Bœuf et le Templier, laissèrent avec un morne dédain leur gobelet devant eux. Mais personne ne s'offrit à contrarier ouvertement le toast porté à la santé du monarque régnant. Ayant joui de son triomphe pendant une minute environ, Cédric dit à son compagnon « Levez-vous, noble Athelstan, nous sommes restés ici assez longtemps, puisque nous avons acquitté la courtoisie hospitalière du banquet du prince Jean. Ceux qui voudront en savoir davantage sur nos rudes manières devront dorénavant nous chercher dans les maisons de nos pères, car nous avons assez vu de banquets royaux et de politesse normande. » En disant ces mots, il se leva et quitta la salle du banquet, suivi d'Athelstan et de plusieurs autres convives, qui, appartenant à la race saxonne, se sentaient insultés par les sarcasmes du prince Jean et de ses courtisans. « Par les ossements de saint Thomas !» dit le prince Jean au moment où il se retirait. « Ces manants saxons ont eu l'avantage de la journée et se retirent en triomphe !»« Conclamatum et vocalatum est !» dit le prieur Aymer. « Nous avons bu et nous avons crié. Il est temps de quitter nos pots. » Le moine veut confesser quelques belles pénitentes ce soir, et voilà pourquoi il se hâte de partir, dit de Bracy. Pas du tout, monsieur chevalier, répliqua l'abbé, mais il faut que je m'avance de quelques milles ce soir vers ma demeure. Il se sépare de nous, dit le prince bas à Fitzurs. Sa crainte anticipe sur l'événement. « Et ce poltron de prieur me quitte le premier. »« Ne craignez rien, monseigneur, » dit Waldemar. « Je vais faire valoir à ses yeux des raisons qui l'engageront à se joindre à nous quand nous nous assemblerons à York. »« Messire prieur, » dit-il, « il faut que je vous parle en particulier avant que vous remontiez à cheval. » Les autres convives se dispersèrent alors rapidement, à l'exception de ceux qui étaient immédiatement attachés à la faction du prince Jean et de sa suite. « Voilà donc le résultat de votre avis, » dit le prince, lançant un regard de colère sur Fitzurs. « Je me vois bravé à ma propre table par un manant saxon, ivre, et au seul nom de mon frère, mes prétendus amis me délaissent comme si j'avais la lèpre. » « Patience, sire !» répliqua son conseiller. « Je pourrais vous retourner votre accusation et blâmer votre légèreté intempestive qui a fait manquer mon projet et qui a trompé le bon jugement qui vous est propre. Mais ce n'est pas le temps de récriminer. De Bracy et moi, nous allons à l'instant trouver ces lâches inconstants et nous les convaincrons qu'ils se sont trop avancés pour reculer. » « Ce sera inutile, » dit le prince Jean en arpentant la salle d'un pas désordonné et s'exprimant avec une agitation à laquelle le vin qu'il avait bu contribuait largement. « Ce sera en vain, et ils ont vu l'écriture sur la muraille. Ils ont aperçu la patte du lion sur le sable. Ils ont entendu son rugissement ébranler la forêt. Rien ne saura ranimer leur courage. » Plutôt ciel, dit à demi-voix Fitzurse à De Bracy, que quelque chose pût ranimer le sien. Le seul nom de son frère lui donne la fièvre. Les conseillers d'un prince sont malheureux, De Bracy, lorsque leur maître manque de fermeté et de persistance en bien comme en mal. Chapitre 15. Jamais araignée ne se donna plus de mal pour réparer les mailles déchirées de sa toile que n'en prit Waldemar Fitzurse pour réunir et mettre d'accord les membres épars de la cabale du prince Jean. Peu d'entre eux lui étaient attachés par inclination, et pas un par affection personnelle. Fitzurse fut donc obligé de faire entrevoir à chacun une nouvelle perspective d'avantage, et de rappeler à son souvenir ceux dont il jouissait déjà. Aux seigneurs jeunes et étourdis, il montra dans l'avenir l'impunité, la licence et la débauche sans contrôle. Aux ambitieux, il parla de puissance. Aux avides, de richesses et de vastes domaines. Les chefs des mercenaires reçurent une donation en or, argument le plus persuasif à leurs yeux, et sans lequel tout autre eût échoué. Les promesses furent encore plus libéralement prodiguées que l'argent par cet agent actif. Et enfin, rien ne fut omis de ce qui pouvait déterminer les indécis et ranimer les découragés. Il parla du retour du roi Richard comme d'un événement tout à fait improbable. Cependant, quand il remarqua les regards douteux et les réponses évasives qu'on lui fit, et que cette crainte était celle qui obsédait le plus les esprits de ses complices, il traita hardiment cet événement, pour le cas où il aurait effectivement lieu, comme ne devant pas changer leurs calculs politiques. « Si Richard revient, dit Fitzurse, c'est pour enrichir ses croisés indigents et ruinés aux dépens de ceux qui ne l'ont pas suivi en Terre Sainte. Il revient pour régler un compte effroyable avec ceux qui, pendant son absence, ont fait quelque chose qui puisse être considéré comme une offense ou un empiètement, soit sur les lois du pays, soit sur les privilèges de la couronne. Il revient pour venger, sur les ordres du temple et des hospitaliers, la préférence qu'ils ont donnée à Philippe de France pendant les guerres de Palestine. Il revient enfin pour punir comme rebelles tous les adhérents de son frère, le prince Jean. Craignez-vous sa puissance ? Continua le confident astucieux de ce prince. Nous le reconnaissons pour un chevalier fort et vaillant, mais nous ne sommes plus au temps du roi Arthur, lorsqu'un seul champion arrêtait une armée. Si Richard revient, en effet, il faut que ce soit seul, sans suite et sans amis. Les ossements de sa brave armée ont blanchi les sables de la Palestine. Le petit nombre de ses partisans qui sont revenus se sont traînés jusqu'ici, comme ce Wilfrid Ivanhoé, pauvre et nu. Et que me parlez-vous du droit de naissance de Richard ? Ajouta-t-il pour répondre à ceux qui avaient des scrupules à ce sujet. Est-ce que le droit d'aînesse de Richard est plus certain que celui de Robert, duc de Normandie, fils aîné du conquérant ? Et cependant, Guillaume le Roux et Henri, son second et son troisième frère, lui furent successivement préférés par les droits de la nation. Robert avait tout le mérite que l'on peut allouer à Richard. C'était un chevalier hardi, un bon chef, généreux envers ses amis et envers l'Église, et par-dessus tout, un croisé et un conquérant du Saint-Sépulcre. Et cependant, il est mort prisonnier, aveugle et misérable au château de Cardiff, parce qu'il s'opposait à la volonté du peuple, qui ne voulait pas qu'il régnât sur lui. Il est de notre devoir de choisir dans le sang royal le prince le plus capable de maintenir la puissance souveraine, c'est-à-dire, se reprit-il, celui dont l'élection pourra le plus efficacement servir les intérêts de la noblesse. Quant aux qualités personnelles, ajouta-t-il, il est possible que le prince Jean soit inférieur à son frère Richard. Mais quand on considère que ce dernier revient avec l'épée de la vengeance à la main, tandis que le premier offre des récompenses, des privilèges, des immunités, des richesses et des honneurs, on ne saurait douter quel est le roi que la noblesse, dans son intérêt, doit soutenir. Ces arguments et bien d'autres convenait à la situation particulière de ceux à qui il s'adressait. Ils produisirent donc l'effet attendu sur les nobles de la faction du prince Jean. La plupart d'entre eux consentirent à se trouver au rendez-vous proposé à York, dans l'intention de faire des arrangements généraux pour placer la couronne sur la tête du prince Jean. La nuit était très avancée, quand, fatigué, épuisé par ses différents efforts, bien que récompensé par leurs résultats, Fitzurse, revenant du château d'Asby, rencontra De Bracy, qui avait changé ses habits de gala contre une blouse courte et une culotte de drap vert, un bonnet de peau, une courte épée, un cor passé sur son épaule, un arc à la main et un faisceau de flèches pendant à la ceinture. Si Fitzurse eût rencontré cette figure dans un appartement isolé, il aurait passé devant elle sans s'arrêter et l'aurait prise pour un yeoman de la garde. Mais, la rencontrant dans la salle intérieure, il la regarda plus attentivement et reconnut le chevalier normand sous les traits d'un yeoman anglais. « Que veut dire ce travestissement, De Bracy ?» demanda Fitzurse. « Est-ce bien le temps des jeux de Noël et des mascarades, lorsque le sort de notre maître, le prince Jean, est sur le point de se décider ? Pourquoi n'es-tu pas allé, comme moi, parmi ces lâches sans cœur, que le nom seul du roi Richard fait trembler, ainsi qu'il fait trembler, dit-on, les enfants des Sarrasins ?»« Je me suis occupé de mes propres affaires, » répondit tranquillement De Bracy. « Comme vous, Fitzurse, vous vous êtes occupé des vôtres. »«
Moi, m'occuper de mes propres affaires ?» s'exclama Waldemar.
« J'ai été chargé de celle du prince Jean, notre commun patron. »«
Comme si tu avais pour cela d'autres raisons, Waldemar, » dit De Bracy, « que le soin de ton intérêt personnel. »«
Allons, Fitzurse, nous nous connaissons. L'ambition, voilà ton motif. Le plaisir, voilà le mien. Et il s'adapte à nos âges respectifs. Tu penses du prince Jean, comme moi, qu'il est trop faible pour faire un monarque résolu, et trop despote pour faire un monarque faible, trop insolent et trop présomptueux pour devenir populaire, et trop inconstant et trop timide pour être longtemps un monarque quelconque. Cependant, c'est un prince par lequel Fitzurse et De Bracy comptent s'élever et faire fortune. C'est pourquoi nous l'appuyons, vous de votre politique, et moi des lances de mes libres compagnons.
Tu es un auxiliaire précieux, dit Fitzurse avec impatience. Tu joues le fou à l'heure de la crise. Voyons, quel but te proposes-tu par ce déguisement absurde dans un moment aussi pressant ?
D'obtenir une femme, répondit froidement De Bracy, selon la manière de la tribu de Benjamin.
La tribu de Benjamin ? Dit Fitzurse. Je ne comprends pas.
N'étais-tu pas au banquet hier au soir ? Dit De Bracy. Quand nous entendîmes le prieur Aymer conter une histoire en réplique à la romance chantée par le ménestrel, il nous racontait comment, il y a longtemps, en Palestine, une dispute mortelle s'éleva entre la tribu de Benjamin et le reste de la nation israélite, qui tailla en pièces presque toute la chevalerie de cette tribu, et comment ils jurèrent par notre Sainte Vierge qu'ils ne permettraient pas à ceux qui restaient de se marier dans leur tribu, et comment ils regrettèrent leur vœu, et envoyèrent consulter sa sainteté le pape pour savoir s'ils pouvaient en être relevés. Et comment, par l'avis du Saint-Père, les jeunes gens de la tribu de Benjamin enlevèrent dans un superbe tournoi toutes les dames qui étaient présentes, et eurent ainsi des femmes, sans l'assentiment de leur fiancé ou de leur famille.
« J'ai entendu l'histoire, » dit Fitzurse. « Quoique le prieur ou toi ayez fait des changements singuliers dans les dates et les circonstances. »
« Je te dis, » reprit De Bracy, « que j'entends me procurer une femme à la manière de la tribu de Benjamin. C'est comme si je te disais que, dans ce même équipement, je tomberais sur ce troupeau de bouvillons qui, ce soir, ont quitté le château et que je leur enlèverais la belle Rowena.
« Es-tu fou, De Bracy ?» demanda Fitzurse.
Souviens-toi que, bien que ces hommes ne soient que des Saxons, ils sont riches et puissants, et d'autant plus respectés par leurs compatriotes que la richesse et l'honneur n'appartiennent qu'à un petit nombre de la race saxonne.
Et ils ne devraient appartenir à aucun d'eux,
répliqua de Bracy. Il faut compléter l'œuvre de la conquête.
L'heure en est mal choisie, dit Fitzurse. La crise qui approche rend la faveur de la multitude indispensable, et le prince Jean ne peut refuser de rendre justice à tous ceux qui nuisent à ses favoris.
Qu'il la rende, s'il l'ose, dit de Bracy. Il verra bientôt la différence entre l'assistance de mes vigoureuses lances et celle d'une foule sans cœur de manants saxons. Cependant, je ne me propose pas de me faire connaître immédiatement. N'ai-je pas la mine, sous cet habit, d'un forestier aussi hardi qu'aucun qui ait jamais donné du corps? Le blâme de la violence retombera sur les bandits des forêts d'York. J'ai des espions sûrs qui surveillent tous les mouvements des Saxons. Cette nuit, ils couchent au couvent de Saint-Withold, ou Withold. N'est-ce pas ainsi que l'on nomme ce manant de Saint-Saxon à Burton-sur-Trent? La marche du lendemain les conduira à notre portée, et, pareils à des faucons, nous nous abattrons sur eux à l'improviste. Puis, j'apparaîtrai bientôt, dans mon propre caractère, pour jouer le chevalier courtois. Je délivre la belle infortunée en pleurs des mains de ses ravisseurs, je la reconduis au château de Front-de-Bœuf, ou même en Normandie, si cela est nécessaire, et elle ne reverra ses parents que lorsqu'elle sera la fiancée ou la femme de Maurice de Bracy.
Voilà un plan merveilleusement sage, dit Fitzurse, et comme je le pense, il n'est pas entièrement de ton invention. Allons, sois franc de Bracy. Qui t'a aidé dans cette fourberie, et qui doit te seconder dans son exécution? Car, à ce que je sais, la troupe est campée au loin, à York.
Par Marie, s'il faut que tu l'apprennes, dit de Bracy, c'est le Templier brillant de Bois-Guilbert qui a combiné ce projet, que l'aventure des hommes de Benjamin m'avait suggéré. Il doit m'aider dans l'attaque, et c'est lui et ses serviteurs qui personnifieront les bandits dont mon bras valeureux, après avoir changé d'habit, doit délivrer la dame.
Par le ciel, s'écria Fitzurse. Ce plan est digne de votre sagesse à tous deux. Et la prudence de Bracy se manifeste spécialement dans ton projet de laisser la dame entre les mains de ton digne allié. Tu pourras, je le pense, réussir à l'enlever à tes amis saxons. Mais ce qui me semble bien plus douteux, c'est de savoir comment tu t'y prendras pour l'arracher aux griffes de Bois-Guilbert.
« C'est un Templier, dit de Bracy. Il ne peut donc pas devenir mon rival pour épouser cette héritière et vouloir tenter quelque chose de déshonorant contre la fiancée future de de Bracy. Par le ciel, quand il serait tout un chapitre de son ordre à lui seul, il n'oserait me faire une telle injure.
Puisque tout ce que je puis te dire, reprit Fitzurse, ne peut chasser cette folie de ton imagination, car je connais bien l'opiniâtreté de ton caractère. Au moins ne perds pas le moins de temps possible. Que ta folie, qui est déjà malencontreuse, ne soit pas encore trop durable.
Je te promets, répondit de Bracy, que ce sera l'ouvrage de quelques heures seulement. Après quoi, je serai à York à la tête de mes vaillants compagnons, aussi prêt à soutenir un dessein hardi que la politique l'est à le concevoir. Mais j'entends mes camarades qui s'assemblent et les coursiers qui piétinent et hennissent dans la cour extérieure. Adieu, je vais, en vrai chevalier, gagner les sourires de la beauté.
En vrai chevalier, répéta Fitzurse en le suivant des yeux. En vrai sot, aurais-je dit. Ou comme un enfant qui quitte l'occupation la plus sérieuse et la plus nécessaire pour courir après le duvet du chardon qui voltige autour de lui. Mais c'est avec de pareils instruments qu'il faut que je travaille, et au profit de qui? Au profit d'un prince aussi imprudent que libertin, et aussi disposé à être maître ingrat qu'il s'est déjà montré fils rebelle et frère dénaturé. Mais lui, lui encore,
Il n'est qu'un des instruments avec lesquels je travaille. Et malgré son orgueil, s'il songeait à séparer ses intérêts des miens, c'est un secret qu'il ne tarderait pas à apprendre. » Les méditations de l'homme d'État furent ici interrompues par la voix du prince s'écriant d'un appartement intérieur.
« Noble Valdemar Fitzurse !»
Et, le bonnet à la main, notre futur chancelier, car l'astucieux Normand aspirait à cette haute dignité, se hâta d'aller recevoir les ordres du futur souverain. Chapitre 16. Le lecteur ne saurait avoir oublié que l'événement du tournoi fut décidé par les efforts d'un chevalier inconnu, lequel, à cause de la conduite passive et indifférente qu'il avait manifestée le premier jour de la joute, avait été nommé le noir fainéant par les spectateurs. Le chevalier avait quitté brusquement la lice quand la victoire fut décidée, et lorsqu'on le somma de se présenter pour recevoir le prix de sa valeur, on ne put le trouver nulle part. Sur ces entrefaites, pendant que les héros l'appelaient par la voix des trompettes, le chevalier se dirigeait vers le nord, évitant tous les chemins fréquentés et prenant la route la plus courte à travers les bois. Il s'arrêta, pour passer la nuit, à une petite hôtellerie écartée de la route ordinaire, et là, il obtint d'un ménétrier vagabond des nouvelles sur le résultat du tournoi. Le lendemain matin, le chevalier se remit en route de bonne heure, ayant l'intention de faire une longue traite. Il avait eu soin d'épargner son cheval pendant le jour précédent pour lui permettre de fournir une course extraordinaire sans avoir besoin de se reposer. Cependant, ses espérances furent déçues. Les sentiers au milieu desquels il s'avançait étaient si tortueux que lorsque le soir vint le surprendre, il se trouvait sur la frontière du West Riding, Yorkshire. À cette heure, le cheval et l'homme avaient grand besoin de se rafraîchir, et il devenait urgent de chercher quelque endroit où ils pussent passer la nuit. Le lieu où le voyageur se trouvait semblait peu propice pour obtenir un abri ou des rafraîchissements, et il allait probablement être réduit à l'expédient ordinaire des chevaliers errants, qui, en pareille occasion, laissaient leurs chevaux paître et se couchaient eux-mêmes sur la terre, pour songer à la dame de leurs pensées, ayant pour tout dais les branches d'un chêne. Mais le chevalier noir n'avait peut-être pas de maîtresse à qui songer, ou bien encore, aussi indifférent en amour qu'il paraissait l'être en guerre, était-il trop préoccupé de ses réflexions passionnées sur les belles et les cruelles pour en arriver à neutraliser les effets de la fatigue et de la faim, et accepter l'amour platonique comme équivalent de la satisfaction que lui eussent procuré un bon souper et un bon lit. En conséquence, il se sentit médiocrement satisfait lorsque, regardant autour de lui, il se trouva enveloppé de bois, dans lesquels il y avait à la vérité plusieurs clairières ouvertes et plusieurs sentiers. Mais ces sentiers semblaient tracés seulement par les nombreux troupeaux de bétail qui paissaient dans la forêt, par le gibier, ou enfin par les braconniers qui lui donnaient la chasse. Le soleil, d'après lequel le chevalier avait principalement dirigé sa course, s'était déjà couché derrière la montagne du Derbyshire, à sa gauche, et toute tentative pour continuer son voyage pouvait aussi bien le conduire hors de sa route que l'y avancer. Après avoir vainement tâché de choisir le sentier le plus battu, dans l'espoir qu'il le conduirait à la chaumière de quelque pâtre ou au logis champêtre d'un forestier, et se trouvant complètement incapable de s'arrêter à l'un ou à l'autre, le chevalier résolut de se fier à la sagacité de son cheval. Car il avait appris par expérience, dans des occasions précédentes, l'instinct merveilleux dont ces animaux sont doués pour se tirer d'embarras avec leurs cavaliers au milieu de pareilles crises. Le bon coursier, exténué d'une si longue journée sous un cavalier couvert de mailles, n'eut pas plutôt compris, en sentant la reine lâcher, qu'on l'abandonnait à son propre instinct, qu'il parut reprendre une nouvelle force et un nouveau courage.
et quoique d'abord il répondît à peine à l'éperon, si ce n'est par un gémissement, maintenant, comme s'il eût été fier de la confiance que l'on mettait en lui, il dressait les oreilles et se donnait de son propre mouvement une plus vive allure. Le sentier pris par l'animal déviait un peu du chemin que le voyageur avait suivi pendant le jour. Mais comme le cheval paraissait certain du choix qu'il avait fait, le cavalier s'abandonna à lui. L'événement lui donna raison, car peu après, le sentier se montra plus large et plus battu, et le tintement d'une petite cloche fit comprendre au chevalier qu'il était dans le voisinage de quelque chapelle ou de quelque ermitage. En effet, il atteignit bientôt une clairière de tourbe, à l'extrémité de laquelle un rocher, qui s'élevait abruptement d'une petite plaine inclinée, présenta au voyageur son front gris et usé par le temps. Le lierre couvrait ses côtés en plusieurs endroits, et en d'autres, des chênes et des buissons de houx, dont les racines trouvaient leurs aliments dans les fentes du roc, flottaient au-dessus des précipices creusés à son pied, comme les plumes du guerrier flottent sur son casque de fer poli, donnant de la grâce à ce qui, sans cet ornement, eût inspiré de la terreur. Au bord du roc, et appuyé pour ainsi dire contre lui, se trouvait une hutte grossière, composée principalement de troncs d'arbres abattus dans la forêt voisine et abritée contre les intempéries par la mousse mêlée de limon dont on avait bourré ses crevasses. La tige d'un jeune sapin, dont les branches étaient coupées, avec un morceau de bois lié en travers à son extrémité, était plantée à l'entrée de la porte, comme un emblème de la Sainte Croix. À une petite distance sur la droite, une source de l'eau la plus pure filtrait hors du rocher et était reçue dans une pierre creuse, façonnée par la nature en bassin rustique. S'échappant de là, le courant murmurait en descendant par un canal que son cours avait lentement creusé, et puis errait à travers la petite plaine pour aller se perdre dans le bois voisin. À côté de cette fontaine, on voyait les ruines d'une très petite chapelle dont le toit s'était en partie écroulé. Ce bâtiment, quand il était complet, n'avait jamais eu plus de 16 pieds de long sur 12 pieds de large, et son toit, proportionnellement bas, reposait sur 4 arches concentriques qui partaient des 4 coins de l'édifice, chaque angle soutenu par une colorine courte et pesante. Les côtés de 2 de ces arches restaient encore, bien que le toit fût effondré entre elles. Sur les autres, il demeurait entier. L'entrée de cette ancienne chapelle était sous une arche ronde et très basse, ornée de plusieurs dentelures de ce feston irrégulier qui ressemble à la mâchoire d'un requin, et que l'on retrouve si souvent dans la vieille architecture saxonne. Au-dessus du porche, sur 4 petites colonnes, s'élevait un beffroi, dans lequel était suspendue la cloche verdâtre et délabrée dont les sons avaient été entendus par le chevalier noir. Tout ce paysage, paisible et tranquille, éclairé par les derniers rayons du jour, donnait au chevalier l'assurance d'un bon gîte pour la nuit, puisque c'était un devoir spécial chez les ermites habitants des bois, d'exercer l'hospitalité envers les voyageurs attardés et ayant perdu leur chemin. Par conséquent, le chevalier ne se donna point le temps de considérer minutieusement les détails que nous venons de rapporter, mais, après avoir remercié Saint-Julien, patron des voyageurs, qui lui envoyait un bon abri, il sauta à bas de son cheval et assaillit la porte de l'ermitage en l'attaquant du bout de sa lance, afin d'appeler l'attention de l'ermite et d'obtenir son admission dans l'ermitage. Il se passa un certain temps avant qu'une réponse lui fût faite, et celle qu'il reçut était loin d'être favorable.
« Passez votre chemin, qui que vous soyez !»
cria de l'intérieur de la hutte une voix rauque et profonde.
« Et n'interrompez point le serviteur de Dieu et de Saint Dunstan dans les devoirs du soir !»
« Digne père, répondit le chevalier, c'est un pauvre voyageur qui a perdu son chemin dans les bois et qui te donne l'occasion d'exercer la charité et l'hospitalité.
Bon frère, répliqua l'habitant de l'ermitage. « Il a plu à Notre-Dame et à Saint-Dunstan de me destiner à être le modèle de ses vertus, au lieu d'en être l'instrument. Je n'ai point de provision ici qu'un chien voulut partager avec moi, et un cheval qui eût été tendrement nourri par son maître mépriserait la paille sur laquelle je suis couché. Passe donc ton chemin, et que Dieu t'assiste. »
« Mais comment me sera-t-il possible, reprit le chevalier, de trouver mon chemin à travers un tel fourré quand la nuit tombe? Je vous prie donc, mon révérend père, au nom de notre commune religion, de m'ouvrir votre porte et de m'indiquer au moins la route. »
« Et moi, je vous prie, bon frère chrétien, répliqua l'anachorète, de cesser de me troubler. Vous m'avez déjà interrompu dans un pater, deux aves et un credo. Que moi, misérable pécheur que je suis, j'aurais dû, selon mon vœu, avoir récité avant le lever de la lune.
« La route ! La route !» vociféra le chevalier. « Donnez-moi des renseignements sur la route, si je ne puis obtenir davantage de vous. »
« La route, reprit l'ermite, est facile à suivre. Le sentier du bois conduit à un marais, et de là à un gué qui peut être praticable, les pluies ayant cessé. Quand tu auras passé le gué, il faudra avoir soin, en montant la rive gauche, de faire grande attention où tu poseras le pied, car la rive est à pic, et le sentier qui surplombe la rivière s'est affaissé dernièrement, selon ce que l'on m'a dit, en plusieurs endroits. Mais je ne puis certainement te renseigner là-dessus, vu que rarement je quitte mon ermitage. Ce point dépassé, tu iras droit devant toi.
Un sentier effondré, une côte à pic, un gué et un marais?
S'écria le chevalier, l'interrompant. Mais, sire ermite, quand vous seriez le plus saint de tous les ermites qui aient jamais porté la barbe ou compté les grains d'un rosaire, vous ne me déterminerez pas à suivre une telle route cette nuit. Je te dis donc que toi qui vis par la charité du pays, et qui, je n'en doute pas, n'en est aucunement digne, tu n'as pas le droit de refuser l'abri au voyageur quand ce voyageur est dans la détresse. Ouvre vite ta porte, ou je jure par la croix que je l'enfoncerai et me ferai moi-même l'entrée que tu ne veux pas me faire.
« Ami voyageur, répliqua l'ermite, ne te rends pas importun. Si tu me forces à employer les armes charnelles dans le but de ma propre défense, tu n'y gagneras rien. »
En ce moment, un bruit lointain d'aboiements et de hurlements que le voyageur avait entendu depuis quelque temps redoubla de violence, et le chevalier en conclut que l'ermite, alarmé par la menace qu'il venait de faire de forcer l'entrée, avait appelé à son aide les chiens qui faisaient cette clameur, et qu'ils étaient venus de quelque réduit intérieur où ils avaient leur chenil. Irrités de ces préparatifs de la part de l'ermite, lesquels avaient évidemment pour objet d'appuyer ses intentions inhospitalières, le chevalier frappa la porte si furieusement de son pied que les poteaux et les gonds en furent ébranlés. L'anachorète, ne désirant pas exposer une seconde fois sa porte à une pareille secousse, s'écria « Patience, patience! Ne prodiguez point inutilement la force, bon voyageur, et je vais ouvrir la porte tout de suite. Bien que la porte une fois ouverte, vous n'en serez probablement pas bon marchand. » La porte fut ouverte, en effet, et l'ermite, c'est-à-dire un grand gaillard vigoureusement bâti, vêtu d'une robe et d'un capuchon de grosse toile, ceint à la taille d'une corde de jonc, se trouva face à face avec le chevalier. D'une main, il tenait une torche allumée, et de l'autre, un bâton noueux si solide et si lourd qu'on aurait pu le prendre pour une massue. Deux grands chiens à longs poils, moitié lévrier, moitié dogue, se tenaient prêts à s'élancer sur le chevalier dès que la porte serait ouverte. Mais, lorsque la torche rayonna à la fois sur la crête élevée du casque et sur les éperons d'or du chevalier, qui se tenait debout devant le seuil, l'anachorète, changeant probablement ses premières intentions, contint la colère de ses alliés, et, adoucissant le ton de manière à le ramener à une espèce de courtoisie grossière, il invita le chevalier à entrer dans sa hutte. Il s'excusait de son hésitation à ouvrir son logis après le coucher du soleil, sur cette raison qu'une foule de bandits et d'outlaws rôdait aux environs et n'avait aucun respect pour Notre-Dame et Saint-Dunstan, ni même pour les saints hommes qui consacraient leur existence à leur service. « La pauvreté de votre cellule, bon père !» dit le chevalier, jetant les yeux autour de lui et ne voyant qu'un lit de feuilles, un crucifix de chêne grossièrement sculpté, un livre de messe et une table rudement équarrée, deux escabeaux et quelques autres meubles également frustes. La pauvreté de votre cellule doit paraître une défense suffisante contre toute tentation de vol, sans parler de vos deux chiens, assez grands et assez forts. Il me semble pour terrasser un cerf, et naturellement pour lutter avec un homme. Le bon garde de la forêt, reprit l'ermite, m'a permis l'emploi de ces animaux afin de protéger ma solitude, jusqu'à ce que les temps deviennent meilleurs. Ayant dit cela, il déposa la torche dans une branche de fer tordu qui lui servait de chandelier, et, plaçant devant les cendres du foyer, qu'il raviva avec du bois sec, un des escabeaux de chêne, il mit le second escabeau de l'autre côté de la table et fit signe au chevalier de s'asseoir. Ils s'assirent donc et se regardèrent avec une suprême gravité, chacun pensant à lui-même qu'il n'avait jamais vu de nature plus forte et plus athlétique que celle qui se trouvait devant lui. « Révérend père ermite, dit le chevalier après avoir arrêté longtemps son regard sur son hôte, si je ne craignais d'interrompre vos pieuses méditations, je prierais votre sainteté de me dire trois choses. D'abord, où il faut que je mette mon cheval. Ensuite, ce que je puis avoir pour souper. Et enfin, où je puis trouver une couche pour cette nuit. Je vous répondrai par geste, dit l'ermite, attendu qu'il est contre ma règle de parler lorsque les signes répondent au même but. Et ce disant, il indiqua successivement les deux coins de la hutte. « Votre écurie, dit-il, est là. Votre lit, ici. » Puis, prenant sur une planche à portée de sa main un plat qui contenait deux poignées de pois sec et le posant sur la table, il ajouta « Et voilà votre souper. » Le chevalier haussa les épaules, et, sortant de la hutte, il amena son cheval, que, pendant cet intervalle, il avait attaché à un arbre, enleva la selle avec beaucoup de soin et étendit son propre manteau sur le dos du coursier fatigué. L'ermite fut apparemment attendri quelque peu en voyant la sollicitude et l'adresse dont l'étranger faisait preuve en soignant son cheval, car, après avoir marmotté quelques mots relativement aux provisions laissées par le cheval du garde, il tira de l'enfoncement de la muraille une botte de fourrage qu'il étala devant le coursier de son hôte. Et l'instant d'après, il jeta sur le plancher une certaine quantité d'herbes sèches destinées à former litière au cheval dans le coin qu'il lui avait assigné. Le chevalier lui rendit grâce de sa courtoisie. Et cela fait, ils reprirent l'un et l'autre leur place à côté de la table sur laquelle se trouvait toujours le plat de pois sec. L'ermite, après un long bénédicité, qui primitivement et autrefois avait été latin, mais qui n'avait conservé que peu de traces de sa langue originelle, à l'exception, çà et là, de la terminaison de quelques phrases, donna l'exemple à son hôte en mettant avec modestie dans son énorme bouche, garnie de dents qui eussent pu se comparer aux défenses d'un sanglier par leur incisivité et leur blancheur, trois ou quatre pois secs, misérable mouture pour un si puissant moulin. Le chevalier, afin de suivre un si honorable exemple, déposa son casque, son corselet et la plus grande partie de son armure, et montra à l'ermite une tête aux cheveux dorés, frisés par larges boucles, de grands traits, des yeux bleus d'un éclat remarquable, une bouche bien modelée, ayant sur la lèvre supérieure des moustaches plus foncées que leurs cheveux, et offrant tout à fait la mine d'un homme hardi, courageux et entreprenant, avec laquelle son corps robuste s'assortissait. L'ermite, comme s'il voulait répondre à la confiance de son hôte, rejeta en arrière son capuchon et exposa une tête ronde comme une boule et appartenant à un homme dans la force de l'âge. Son crâne, rasé de près, entouré d'un cercle de cheveux noirs, rudes et bouclés, avait en quelque sorte l'apparence d'un monticule entouré d'une haie. Les traits n'exprimaient rien de l'austérité monastique et ne conservaient aucune trace de privation ascétique. Au contraire, c'était un visage hardi, enjoué, avec de larges sourcils noirs, un front bien fait et des joues aussi rondes et aussi vermeilles que celles d'un trompette. De ses joues descendait une barbe noire, longue et frisée. Un pareil visage, joint aux formes charnues de ce saint homme, parlait plutôt de longes et de cuisseaux que de pois secs et de légumes. Cette contradiction n'échappa point à l'hôte. Après qu'il eut avec grande peine accompli la mastication d'une bouchée de pois secs, il lui fallut absolument supplier son pieux amphitryon de lui fournir un breuvage quelconque. Celui-ci répondit à la prière en plaçant devant le chevalier un grand broc rempli de l'eau la plus pure. « Cette eau vient de la fontaine de Saint-Dostan, dit-il, dans laquelle, entre deux soleils, il a baptisé 500 païens danois et bretons. Béni soit son nom. » Et, appliquant sa barbe noire à la cruche, il avala une gorgée plus que modérée, en raison de l'éloge qu'il venait d'en faire. « Il me semble, révérend père, dit le chevalier, que les bribes que vous avez mangées, de même que ce saint et pauvre breuvage que vous venez d'avaler, vous ont réussi merveilleusement. Vous me paraissez un homme plus propre à gagner le bélier dans une lutte corps à corps, ou l'anneau dans un combat au gourdin, ou bien encore le bouclier à l'escrime, qu'à dissiper ainsi votre temps dans cette solitude en disant des messes et vivant de pois secs et d'eau claire. « Messire chevalier, répondit l'ermite, vos pensées, comme celles des ignorants laïcs, sont selon la chair. Il a plu à Notre-Dame et à mon saint patron de bénir la pénitence à laquelle je me réduis, comme les légumes et l'eau furent autrefois bénis pour les enfants Sidrac, Misac et Abdelnago, qui burent cette même eau, plutôt que de se souiller avec les vins et les mets qui leur furent servis par l'ordre du roi des Sarrasins. « Saint-Père, dit le chevalier, vous sur la figure duquel il a plu au ciel de faire un pareil miracle, permettez à un pauvre pécheur de vous demander votre nom. Tu peux m'appeler le clerc de Kopmanhurst, répondit l'ermite, car c'est ainsi que l'on m'appelle en ce pays. On y ajoute, il est vrai, l'épithète de saint, mais je n'y tiens pas, me sentant indigne d'une telle addition. Et maintenant, vaillant chevalier, pourrais-je te prier de me dire le nom de mon honorable convive ? Vraiment, dit le chevalier, saint clerc de Kopmanhurst, les hommes m'appellent en ce pays le chevalier noir. Beaucoup y ajoutent l'épithète de fainéant, épithète par laquelle je n'ai aucunement l'ambition d'être distingué. L'ermite put difficilement s'empêcher de sourire à la réplique de son hôte. « Je vois, dit-il, messire chevalier fainéant, que tu es un homme prudent et de bon conseil. Et de plus, je vois que ma pauvre table monastique ne te plaît pas. Peut-être parce que tu es accoutumé à la prodigalité des cours et à la licence des camps, aussi bien qu'au luxe des cités. Et maintenant que j'y pense, messire fainéant, lorsque le charitable garde de cette forêt a laissé ses chiens sous ma protection et aussi ses bottes de fourrage, il m'a encore laissé quelques provisions de bouche. Mais comme ma règle m'en interdit l'usage, j'en avais oublié jusqu'à l'existence au milieu de mes pieuses méditations. J'aurais juré qu'il avait fait cela, dit le chevalier. J'étais convaincu qu'il y avait dans la cellule une meilleure nourriture que ces malheureux pois secs. Pieux clair, depuis le moment que vous avez relevé votre capuchon. Ton garde est toujours un joyeux garçon, et quiconque eût vu les mandibules luttant avec ses pois secs et ta gorge inondée de cet élément indigne d'elle, n'aurait pu te savoir condamné à cette nourriture et à ce breuvage. Bon, tout au plus pour les chevaux. Et ici il indiqua sur la table les provisions qu'il venait de citer. Sans avoir la charité de te faire faire meilleure chair. Voyons donc les libéralités du brave garde, et cela sans délai.
L'ermite jeta un regard scrutateur sur le chevalier. Dans ce regard brillait une sorte d'expression comique, comme s'il était incertain de savoir s'il agissait avec prudence en se fiant à son hôte. Il y avait cependant autant de franche hardiesse dans le visage du chevalier que les traits humains en pouvaient exprimer. Son sourire aussi était d'un comique irrésistible et donnait l'assurance d'une loyauté avec laquelle son hôte ne pouvait manquer de sympathiser. Après avoir échangé un ou deux regards muets avec le chevalier, l'ermite alla vers l'autre extrémité de la hutte et ouvrit une porte qui était cachée avec beaucoup de soin et d'adresse. Et, des profondeurs d'un cabinet obscur, dans lequel donnait cette ouverture, il tira un énorme pâté posé sur un plat d'étain d'une gigantesque dimension. Il plaça ce pâté colossal devant son convive, qui, se servant de son poignard pour l'ouvrir, fit, sans perdre de temps, connaissance avec le contenu.
« Combien de temps y a-t-il que le garde est venu ici ?» demanda le chevalier à son hôte, après avoir avalé avec empressement plusieurs morceaux de cet extra ajouté à la chair de l'ermite.
« Environ 2 mois, » répondit sans réfléchir le digne père.
« Par le vrai Dieu !» répliqua le chevalier. « Tout dans votre ermitage sent le miracle, saint homme, car j'aurais juré que le daim qui a fourni cette venaison était encore sur pied cette semaine. »
L'ermite fut un peu déconcerté de cette observation, et de plus, il faisait assez sotte figure, tout en regardant diminuer le pâté, sur lequel son hôte faisait de formidables brèches, genre de guerre à laquelle sa récente profession de foi sur l'abstinence ne lui laissait aucun moyen de se joindre.
« J'ai été en Palestine, messire Claire, » dit le chevalier s'arrêtant tout à coup. Et je me rappelle qu'il y a là-bas une coutume qui oblige l'hôte qui reçoit un étranger à lui prouver la salubrité de la nourriture qu'il lui offre en la partageant avec lui. Loin de moi l'idée de soupçonner un homme si pieux. Néanmoins, je vous serais très obligé si vous vouliez vous plier à cette coutume orientale.
Pour calmer vos scrupules inutiles, messire chevalier, je veux bien. « Pour une fois, déroger à ma règle, » répliqua l'ermite.
Et comme il n'y avait pas de fourchette, ses doigts plongèrent sur le champ dans les entrailles du pâté. La glace de l'étiquette étant une fois rompue, on eût dit qu'il y avait rivalité entre le convive et l'hôte pour jouter à qui ferait preuve du meilleur appétit. Et bien que le premier eût probablement jeûné depuis longtemps, l'ermite, cependant, le laissa loin en arrière.
« Saint-Clair, » dit le chevalier lorsque sa faim fut un peu apaisée, « je gagerai mon bon cheval, qui est là-bas, contre un sequin, que ce même digne garde forestier, à qui nous sommes redevables de cette excellente venaison, t'aura bien laissé une petite barrique de vin des Canaries, ou quelque autre bagatelle de cette sorte, pour servir de pendant à ce noble pâté. » C'est là, sans doute, un épisode tout à fait indigne de demeurer dans la mémoire d'un aussi rigide anachorète que tu es. Cependant, je suis certain que si tu cherchais encore une fois dans cette armoire secrète, tu trouverais que ma conjecture n'est point mal fondée. »
L'ermite répondit par un joyeux grincement de dents, et, retournant au buffet, il en tira une bouteille de cuir
qui pouvait contenir environ 4 pots. Il produisit en même temps 2 grandes coupes à boire, en cornes d'urus et cerclées d'argent. Ayant fait cette bonne provision pour humecter le souper, il parut regarder comme inutile tout reste de scrupule. Et, remplissant 2 coupes, il dit à la manière saxonne « Ouais, à elle, sire chevalier fainéant !» Et il vida la sienne d'un seul trait.
« Drink à elle, Sinclair de Companhurst !» répondit le guerrier.
Et il fit raison à son hôte en avalant une rasade égale à celle que l'ermite avait ingurgitée.
« Sinclair, dit l'étranger après cette double santé, je m'étonne qu'un homme qui possède de pareils muscles et de semblables articulations, et qui, avec cela, possède encore le talent d'un si brave fêteur d'assiettes, se résigne à vivre ainsi seul dans ce désert. À mon avis, vous êtes plus fait pour garder un château ou une citadelle, mangeant tous les jours grassement et buvant sec, que pour vivre ici de légumes et d'eau, ou même de la générosité du garde. Du moins, si j'étais comme vous, je trouverais à la fois la distraction et l'abondance en chassant le daim du roi. Il y a maint bon troupeau dans ces forêts. Jamais on ne remarquera le manque à l'appel d'un chevreuil qui aura apaisé la faim du bon chapelain de Copmanhurst.
Sire chevalier fainéant, répliqua le clerc, de telles paroles sont dangereuses, et je vous prie de vous en abstenir. Je suis un véritable ermite, fidèle à mon roi et aux lois du pays. Et si j'allais voler le gibier de mon maître, je serais justement mis en prison. Et à moins que ma robe ne me sauvegardât, je courrais par ma foi grand risque d'être pendu.
Néanmoins, si j'étais à ta place, continua le chevalier, je rôderai par le clair de lune, quand le forestier et les gardes sont chaudement couchés dans leur lit, et de temps à autre, en marmottant mes prières, je laisserai aller une flèche au beau milieu des daims fauves qui pèsent dans les clairières. Dites-moi, Claire, n'auriez-vous jamais pratiqué un tel passe-temps ?
Ami fainéant, répondit l'ermite, tu as vu de mon ménage tout ce qu'il t'importe d'en voir, et un peu plus même que ne mérite d'en voir celui qui s'empare d'un logis par la violence. Crois-moi, il vaut mieux jouir du bien que Dieu nous envoie que de s'informer indiscrètement d'où il nous vient. Remplis ta coupe et sois le bienvenu. Mais je t'en prie, ne va point, par d'impertinentes questions, me forcer à te prouver que tu aurais eu de la peine à t'introduire dans ma maison si j'avais voulu m'y opposer sérieusement.
« Par ma foi, dit le chevalier, tu me rends plus curieux qu'auparavant. Tu es l'ermite le plus mystérieux que j'ai jamais rencontré. Et je veux en savoir davantage sur toi avant que nous nous séparions. Quant à tes menaces, apprends, saint homme, que c'est le métier de celui à qui tu parles de chercher et de trouver le danger partout où il se rencontre.
« Sire chevalier fainéant, je bois à ta santé, dit l'ermite, en respectant fort ta valeur, mais en estimant très peu ta discrétion. Si tu veux prendre avec moi des armes égales, je te donnerai en toute amitié et amour fraternel une pénitence si suffisante et une absolution si entière que tu ne retomberas pas, pendant les 12 mois qui vont suivre, dans les pensées de l'orgueil et de la curiosité. » Le chevalier lui fit raison et le pria de nommer ses armes.
« Il n'en existe pas, répliqua l'ermite, depuis les ciseaux de Dalila et le clou de Jaël, jusqu'au cimetière de Goliath, pour lequel je ne sois ton homme. Mais si c'est à moi de choisir, que dis-tu, bon ami, de ces joujoux ?»
Se disant, il ouvrit une seconde armoire et en tira une couple de coutelas et de boucliers comme on s'en servait à cette époque parmi les yeomen. Le chevalier, qui suivait avec attention les mouvements de l'ermite, remarqua que cette cachette était garnie de 2 ou 3 bons arcs et d'une arbalète, d'un paquet de viretons à l'usage de cette dernière arme et d'une demi-douzaine de paquets de flèches.
Une harpe et quelques autres objets d'une apparence peu canonique se dessinaient dans la pénombre de l'obscur réduit au moment où il fut ouvert. « Je te promets, frère Claire, dit le chevalier, que je ne te ferai plus de questions indiscrètes. Le contenu de cette armoire me fournit sans réponse à toutes mes demandes. Mais je vois là une arme. » Ici, il allongea la main et tira la harpe à lui. « Sur laquelle j'aimerais infiniment mieux lutter d'adresse avec toi qu'avec l'épée et le bouclier. » « J'espère, messire chevalier, dit l'ermite, que ce n'est point à juste titre que l'on t'a surnommé le fainéant. Je te déclare que je ne sais qu'en penser. Néanmoins, tu es mon hôte, et je ne veux pas mettre ton courage à l'épreuve, du moment où cela n'est point de ton plein gré. Assieds-toi donc, et remplis ta coupe. Buvons, chantons, et soyons joyeux. Si tu connais une bonne chanson, tu seras le bienvenu pour un pâté de venaison à Copmanhurst aussi longtemps que ce sera moi qui desservirai la chapelle de Saint-Dunstan. Ce qui, s'il plaît à Dieu, sera jusqu'à ce que je change ma robe grise contre un linceul de gazon. Mais allons, remplis ton verre, car il faudra quelque temps pour accorder la harpe, et il n'y a rien qui relève la voix et aiguise l'oreille comme une coupe de bon vin. Quant à moi, j'aime à sentir le jus du raisin au bout de mes doigts avant que de faire résonner les cordes de ma harpe. »